Vous écoutez Europe 1, 22h, passé de 40 secondes. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Et le gouvernement serre la vis sur l'assurance chômage. Les syndicats s'insurgent, décryptage et réactions dès le début de ce journal. À Lorient, fin de cavale pour le chauffard qui a tué un petit garçon et en a grièvement blessé un autre. Mise en examen pour homicide involontaire aggravé et écroué. L'appel à témoins a semble-t-il été décisif. Michel Platini, toujours en garde à vue, entendu dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Donald Trump pense déjà à la suite. Un an et demi avant la présidentielle, il lance ce soir sa campagne et vous verrez qu'il sort la grosse artillerie. Exit Bastaro et Para, les deux rugbymen expérimentés, ne participeront pas au Mondial de rugby au Japon, ainsi en a décidé Jacques Brunel. Côté météo, les prochaines heures seront très agitées avec des orages ce soir des Pays de Loire vers la Normandie, puis vers l'ouest de la région parisienne et les Hauts-de-France cette nuit. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir François Pellen, il est le cofondateur de Point Vision et on parlera notamment des délais d'attente chez les ophtalmologues. Il y a du mieux et ça c'est une bonne nouvelle.
Europe 1.
Davantage d'accompagnement, mais aussi un durcissement des règles d'indemnisation. Le gouvernement a donc présenté ce matin sa réforme de l'assurance chômage. Alors avant d'entendre les réactions qui sont assez virulentes, on décrypte ces mesures avec vous, Olivier Samain, du service économie d'Europe 1. D'importants changements aussi bien pour les salariés qui perdent leur emploi que pour les entreprises. Alors on va commencer par les salariés, Olivier, avec en premier lieu un durcissement des conditions requises pour être indemnisé quand on se retrouve au chômage.
Oui Isabelle, dans le système actuel, il suffit d'avoir travaillé 4 mois dans les 28 mois qui précèdent votre perte d'emploi pour être indemnisé par l'assurance chômage. Avec la réforme, on vous demandera d'avoir travaillé au moins 6 mois dans une période qui plus est raccourcie. Ce ne sera plus les 28 derniers mois, mais les 24 derniers mois. Par ailleurs, le calcul des allocations chômage va être modifié. Il s'appuiera désormais sur le revenu mensuel moyen que vous touchiez avant de perdre votre emploi et non plus sur le salaire des seuls jours où vous travaillez.
Alors Olivier, dans cette réforme, il y a aussi une confirmation. La dégressivité des allocations chômage va être instaurée pour les salariés qui ont des revenus élevés et qui perdent leur emploi.
Oui, la mesure concernera les cadres. Alors pas tous les cadres, hein. Ceux qui, quand ils étaient en emploi, gagnaient plus de 4500 euros bruts par mois. Ils continueront à toucher leur indemnisation auto actuelle, mais seulement pendant les 6 premiers mois qui suivent leur perte d'emploi. À partir du 7e mois de chômage, l'allocation baissera de 30%. Alors, précision importante, les cadres seniors, les cadres de plus de 57 ans, qui ont plus de mal à retrouver un emploi, ne seront pas concernés, eux, par cette dégressivité.
Là, on vient de parler des mesures qui concernent les demandeurs d'emploi, mais on le sait, cette réforme, elle touche aussi les entreprises, par exemple celles qui abusent des contrats courts. C'est l'instauration, Olivier, du fameux bonus-malus.
Oui, bonus pour les entreprises qui font des efforts pour stabiliser leurs salariés. Leur cotisation assurance chômage sera réduite. Et à l'opposé, malus pour les entreprises qui enchaînent les contrats courts, très souvent avec les mêmes personnes. Leur cotisation, elle, sera alourdie. Ce bonus-malus s'appliquera à 7 secteurs d'activité, dont par exemple l'hôtellerie-restauration, le transport, l'entreposage. Et seulement dans les entreprises de ces secteurs qui emploient plus de 11 personnes. Dans les autres secteurs où le bonus-malus ne s'appliquera pas, eh bien les entreprises qui multiplient les contrats d'usage, des contrats ultra flexibles, ces entreprises subiront une taxation forfaitaire de 10 euros par embauche via un contrat d'usage.
Les précisions d'Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Alors cette réforme, elle ne plaît pas du tout aux syndicats. Laurent Berger, notamment de la CFDT, dénonce des mesures injustes.
On a une réforme profondément injuste qui va être extrêmement dure pour tous les chômeurs précaires qui alternent du travail et de la période de chômage, qui donc subissent la précarité, qui va mettre en place la dégressivité pour ce qui est appelé les très hauts revenus, c'est-à-dire les cadres, ce qui, on le sait, est totalement inefficace pour le retour à l'emploi, et qui va durcir les conditions d'entrée dans l'assurance chômage pour tous les demandeurs d'emploi. C'est une politique qui est mise en place, qui ne prend pas en compte la réalité concrète des demandeurs d'emploi aujourd'hui qui subissent la précarité. Et je le dis d'autant plus que la CFDT n'a jamais été avare d'adapter les règles à la situation du marché du travail et aux besoins de l'emploi. et des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes abasourdis de cette réforme qui est, je le répète, profondément injuste.
Le patron de la CFDT avec Olivier Samin, le patronat de son côté s'inquiète bien sûr du bonus-malus qui pourrait dissuader les entreprises de recruter. Le projet de loi mobilité a été adopté cet après-midi à l'Assemblée. L'ambition, c'est d'améliorer les transports du quotidien de tous les Français en les rendant plus propres. Il s'agit du texte qui autorise notamment l'assouplissement des 80 km/h sur les routes secondaires. Ce sont les présidents de départements ou les maires qui désormais décideront. Ce texte instaure également une compensation pour les trajets domicile-travail à vélo. Ça n'est pas à la hauteur des enjeux sanitaires et climatiques, d'après les ONG comme Greenpeace ou la Fondation Nicolas Hulot.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1. Il sera donc resté 9 jours en cavale. Le chauffard de Lorient a été interpellé ce matin à quelques kilomètres seulement du lieu où il avait renversé les deux enfants, tuant l'un d'entre eux. Il a reconnu les faits, il a été mis en examen dans la foulée pour homicide involontaire aggravé et écroué. François Coulon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. François, le jeune homme a été arrêté dans un hôtel où il a été reconnu, semble-t-il, par un membre du personnel.
Oui, c'est la femme de chambre de l'hôtel B&B de Lanester, située à quelques kilomètres du lieu du drame, qui a reconnu le suspect grâce à sa photo figurant sur l'appel à témoins. Elle n'était pas complètement certaine, mais dans le doute, cette femme a appelé la police ce matin aussitôt. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont cueilli Kylian en douceur dans le couloir alors qu'il sortait de sa chambre. Le jeune homme s'est rendu sans opposer de résistance. D'après nos informations, la chambre avait été réservée la veille au soir par une tierce personne à un autre nom que le sien, ce qui semble accréditer la piste de complicité au cours de cette longue cavale de près de 10 jours. Le suspect, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt, a été directement présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Il encourt 10 ans de prison pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées. Chez les familles des deux petites victimes du chauffard, c'est le soulagement avec le souhait d'une peine exemplaire. Nous croyons en la justice, nous ont dit les proches, alors que le petit Samet, 7 ans, reste plongé dans le coma. Son pronostic vital est toujours engagé.
François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Et dans un instant, c'est la suite de votre journal sur Europe 1. Michel Platini est toujours en garde à vue. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1. Et Michel Platini a donc passé cette journée de mardi en garde à vue. L'ancienne star du foot français et ancien patron de l'UEFA est entendu dans le cadre des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar. Jean-François Pérez, rappelez-nous à quand remonte cette affaire.
23 novembre 2010, 9 jours avant le vote sur l'attribution du Mondial 2022. Ce jour-là, à l'Élysée, le président de la République, Nicolas Sarkozy, reçoit le prince héritier du Qatar, devenu depuis émir, Tamim Al-Thani, et, coïncidence ou non, le patron du foot européen, Michel Platini. Parmi les autres présents, Sophie Dion, la conseillère sport du chef de l'État, et Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, qui sont tous les deux, d'ailleurs, aujourd'hui, également entendus dans ce même dossier. Depuis bientôt 10 ans, rien ou presque n'a filtré de ces entretiens. Tout ce qu'on sait, c'est que le 2 décembre 2010, le Qatar, qui était très loin d'être favori, enlève l'organisation de la Coupe du Monde au nez et à la barbe des États-Unis ou du Japon, dans des conditions que les justices françaises, mais également suisses et américaines, soupçonnent d'être entachées de corruption.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, l'avocat de Michel Platini, assure en tout cas dans un communiqué que son client répond sereinement à toutes les questions et qu'il est absolument confiant pour la suite. Deux policiers de la brigade fluviale mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une de leurs collègues. Dans la Seine, Amandine Giraud avait disparu lors d'un exercice alors que le fleuve était en crue. Quelques jours après le passage de la tempête Eleanor, la jeune policière n'avait son diplôme de plongée sous-marine que depuis 3 semaines. Le hacker franco-israélien Ulkan, renvoyé aux assises pour un canular mortel, cela remonte à l'été 2014. Il avait déclenché une opération de police d'envergure en représailles à l'article d'un journaliste. 4 jours plus tard, le père du journaliste en question avait été victime d'un infarctus. L'élection présidentielle aux États-Unis, c'est dans un an et demi, c'est-à-dire c'est pas tout de suite. Et pourtant, Donald Trump s'apprête à lancer sa campagne. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président veut se succéder à lui-même et il va l'annoncer tout à l'heure lors d'un meeting en Floride.
Oui, et pas un petit meeting. 20 000 fans absolus du président attendus dans l'enceinte de basket d'Orlando. Les premiers sont arrivés 48 heures avant pour être sûr de rentrer. Personne ne suscite un tel enthousiasme, sauf si vous jouez de la guitare, a tweeté un Donald Trump qui se compare donc à une rockstar. Pour l'occasion, il y aura tout le clan, le vice-président Mike Pence, la First Lady Melania, ses enfants, et on connaît déjà ses arguments choc. Une économie en pleine forme et une fermeté maximale sur l'immigration. Hier, Donald Trump a d'ailleurs annoncé par un tweet l'expulsion de millions de sans-papiers. C'est pas très réaliste, mais parfaitement dans le ton de ce qu'on va entendre ce soir. Jamais un président sortant n'a lancé aussitôt sa campagne de réélection. On est, je vous rappelle quand même, plus de 500 jours avant le scrutin. Mais Donald Trump est l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire. Il n'a pas élargi son socle électoral, alors il a besoin de remobiliser sa base d'électeurs s'il veut espérer rester à la Maison-Blanche. Donald Trump veut aussi occuper le terrain pendant que les démocrates se battent entre eux pour choisir un champion. Aujourd'hui, le favori de la vingtaine de candidats, c'est Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Il battrait très largement Donald Trump selon les sondages, mais le 3 novembre 2020, c'est très loin. Début donc de la campagne la plus longue dans quelques heures en Floride.
Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En Grande-Bretagne, cette fois, le député conservateur Boris Johnson, champion des pro-Brexit, conforte son avance dans la course à la succession de Theresa May. Il termine largement en tête du deuxième tour de vote, à l'issue duquel il ne reste plus désormais que 5 candidats. Les sports et le rugby, on connaît la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde. Ce sera en septembre au Japon. Le manager Jacques Brunel a réservé quelques surprises, avec notamment deux absences remarquées de joueurs expérimentés, Bastaro et Parra, qui n'iront pas au Japon, Simon Rubin.
Et deux cadres que Brunel appréciait, puisqu'il avait fait de Mathieu Bastaro son vice-capitaine lors du tournoi des Six Nations cette année. Mais en ce qui concerne le trois-quarts centre, le manager lui a reproché son manque de vitesse. Aujourd'hui, le rugby mondial est basé sur la rapidité, le déplacement, résume Brunel, qui lui a donc préféré Sofiane Guitoun, récent champion de France. Quant à Parra, il pâtit de sa blessure et du retour en grâce, un peu inattendu, de Maxime Macheneau. Alors plus globalement, cette sélection mise sur la jeunesse, une moyenne d'âge de 26 ans, 22 sélections en moyenne par joueur, c'est assez faible. Dans la liste élargie, on compte même 4 joueurs qui vont découvrir l'équipe de France. Est-ce suffisant pour créer l'exploit? Eh bien, Jacques Brunel y croit.
Vous voyez le verre à moitié vide, toujours. Moi, je le vois à moitié plein. C'est un moment particulier. L'équipe de France, même dans les moments difficiles, a montré qu'elle était capable de se ressaisir, de bien figurer, même d'aller loin. Donc voilà, je crois beaucoup à cette équipe, je crois beaucoup à notre capacité à créer un contexte favorable. Je pense qu'on aura notre mot à dire, et j'espère.
Bien figuré, nous dit Jacques Brunel. Les pessimistes verront dans ce discours une tentative de méthode Coué. En tout cas, la préparation débutera pour les Bleus le 26 juin prochain à Marcoussis.
Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1. En cyclisme, l'hécatombe au sein de l'équipe Ineos, l'ancienne équipe Sky. Après la blessure de Chris Froome, c'est le vainqueur du dernier Tour de France, Geraint Thomas, qui est tombé aujourd'hui. Le Gallois, touché à l'épaule, contraint à l'abandon sur le Tour de Suisse. Et puis en foot, les Bleus connaîtront tout à l'heure leur adversaire pour les huitièmes de finale, le Brésil, l'Italie ou l'Australie. A priori, pour l'instant, c'est plutôt le Brésil qui tient la corde. La rencontre se jouera dimanche. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, la soirée et la nuit s'annoncent bien agitées.
Exactement, Isabelle, à cause des orages en fait qui remontent des Pays de la Loire vers la Normandie ce soir et sur l'ouest de la région parisienne ainsi que les Hauts-de-France cette nuit. Des orages localement forts, accompagnés de grêle ou de vent. Alors demain matin, ils s'en iront par les frontières belges. On conservera un ciel d'averse sur une grande partie nord-ouest et de plus en plus beau en allant vers le sud. L'après-midi, les orages se décolleront un peu plus vers l'est. Ils vont gagner le Grand Est en fait en soirée. Retour des éclaircies sur le littoral atlantique, un ciel voilé sur le sud-ouest et toujours radieux près de la Méditerranée. Alors après le passage des orages, baisse du mercure à l'ouest, mais toujours aussi chaud à l'est avec des pointes à 22 degrés pour Strasbourg demain après-midi contre 18 à Brest, 21 à Caen et La Rochelle, 24 à Lille, à Paris et Biarritz, 25 à Blois, Bordeaux, Montpellier, 27 à Montluçon comme à Toulon, 28 à Marseille, 29 à Besançon et Toulouse, 30 à Lyon, 31 pour Cahors ou encore à Colmar. Jeudi et vendredi, eh bien ce sera orageux du sud-ouest au grand est avec des pluies abondantes, attention, surtout vendredi. Tout juste de saison pour les températures, mais retour du soleil et de la chaleur pour le week-end, juste le temps du week-end. Ce sera de nouveau orageux la semaine prochaine.
C'est déjà ça. La météo signée, Elena Morna. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le cofondateur de Point Vision. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Belle séance aujourd'hui à Wall Street avec des indices qui gagnent plus de 1%.
Oui, le Dow Jones s'adjuge 1,36%, 26 466 points. Le Nasdaq avance de 1,39%, 7 954 points. C'est le patron de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a provoqué l'électrochoc aujourd'hui. Il a dit aux investisseurs exactement ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire que la BCE pourrait encore baisser ses taux. Ça rassure des marchés inquiets pour l'économie mondiale et qui attendent aussi le verdict de la Réserve fédérale américaine. Ce sera demain soir. La Fed qui ne devrait pas annoncer de baisse de taux pour le moment, mais peut-être fin juillet. L'autre point positif pour les marchés, c'est la rencontre confirmée entre Donald Trump et le président chinois la semaine prochaine en marge du sommet du G20 à Osaka. Une rencontre qui nourrit les espoirs d'un accord commercial qui se fait beaucoup attendre, décidément. Côté valeur, on retiendra Boeing qui grimpe de 5,4%. L'avionneur a décroché sa première grosse commande au salon aéronautique du Bourget, près de Paris. La compagnie Korean Air va acheter 20 Dreamliner. Et puis l'euro recule après les propos très souples, très accommodants de Mario Draghi. Il perd 0,2% et s'échange contre 1,1196 $.
Et le marché parisien, Claire, est lui aussi galvanisé ce soir par les propos du patron de la BCE.
Oui, le marché parisien est dopé lui aussi par ses espoirs monétaires. Le CAC 40 s'offre un bond de 2,2% et termine à 5 510 points. Le secteur du luxe profite de cet optimisme, mais aussi du repli de l'euro. On a des gains importants ce soir pour Kering, plus 4%, Hermès, plus 3,4%, LVMH, plus 2,9%. Et puis cet Accor Hôtel qui est en tête du CAC, grâce à un avis positif d'analystes, le titre grimpe de près de 5%.
Et c'est du vert également pour Sanofi.
Plus 2,6% pour Sanofi. Le groupe pharmaceutique va collaborer avec Google pour créer un laboratoire virtuel d'innovation. L'idée, c'est de développer des médicaments en profitant des nouvelles technologies. Et puis la hausse est plus timide, plus 0,4% pour Airbus, qui engrange aussi les commandes au salon aéronautique du Bourget. Commande notamment pour son A321 XLR. C'est le dernier né de la famille A320neo, moins gourmand, notamment en carburant. Les marchés européens saluent ce soir les propos de Mario Draghi. Francfort enregistre un gain de 2%, plus 1,7% pour Londres. Bruxelles gagne 1,8%, Madrid plus 1,2%, Milan plus 2,5%. Et à Paris, le CAC 40 bondit de 2,2%. On est à 5 510 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le cofondateur de Point Vision.
Bonsoir François Pelen.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Point Vision, l'un des grands noms aujourd'hui de l'ophtalmologie en France. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est qu'il y a quand même une relative bonne nouvelle sur ce secteur, puisque tout ce qu'on en est, en tout cas moi qui porte des lunettes, j'ai pu le vérifier ces dernières années, c'était bien compliqué d'avoir un rendez-vous. Eh bien, les délais d'attente se sont considérablement réduits ces derniers temps, puisqu'on est passé en moyenne de 66 jours à 43 jours. Ma première question est vraiment toute simple. Comment on explique ?
Alors, quand il y a un problème, il y a une solution. La raison pour laquelle on a créé, avec mes associés Point Vision, il y a maintenant 7 ans, c'était qu'on voyait bien le problème, mais que peut-être avant d'autres, on voyait la solution. Alors, la solution, elle passe d'abord par le plus de machines et d'automatisation possible, voire de l'intelligence artificielle. Et puis, ça passe par la collaboration avec des orthoptistes. Tout ce qui peut être fait par un technicien, parce que la ressource rare, c'est le médecin. Donc, il faut consacrer le médecin à des tâches médicales et pas à des tâches administratives ou techniques.
Ça Mais même le pré-examen, c'est là où servent aussi les orthoptistes
voilà,
aujourd'hui.
Exactement.
C'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout un travail préparatoire et le médecin ne vient que vérifier et lire, je ne sais pas si on va appeler ça une radio. Mais c'est...
Il vient faire le diagnostic et après, il amène sa patte médicale. Et comme ça, eh bien, vous pouvez gagner à peu près 50% du temps du médecin. Et au lieu de voir 30-35 patients dans une journée, il en voit 50 sans dégrader la qualité. Parce qu'il y a une chose de sûre en médecine, faire plus vite avec de la mauvaise qualité, c'est pas toujours très difficile, mais c'est pas souhaitable.
On est à 43 jours aujourd'hui en moyenne en France. Est-ce qu'on peut descendre beaucoup plus bas, d'après vous, en continuant d'appliquer ces mesures et peut-être ce que vous disiez, notamment les robots et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut vraiment nous permettre de gagner beaucoup de temps encore ?
Alors, il y a, vous avez donné la moitié de la réponse, mais il y a une autre moitié. La première moitié de la réponse, c'est l'intelligence artificielle. Alors, moi, je suis très attaché au fait que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin. En fin de compte, ça va permettre au médecin de mieux faire son travail et plus vite.
Mais de façon très concrète, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ?
Par exemple, un cliché du fond d'œil, la machine va être capable de dire « attention, il y a tel truc » immédiatement au problème.
Donc ça, c'est une partie de la réponse ?
C'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est la télémédecine. Et le premier étage de la fusée Point Vision, ça a été d'avoir des gros centres où il y avait tout ça, la technologie, les paramédicaux, tout le monde sur le même plateau pour pouvoir voir plus de patients rapidement. Malheureusement, ces gros centres, qui dit gros centre, dit grosse ville. Ou ville de taille moyenne, mais pas les petites villes.
Oui, parce que vous êtes dans les villes de 200 à 250 000 habitants, c'est ça l'idée moment.
200 à 250 000 pour la région, pour le bassin de population. Ça veut dire qu'on peut avoir des antennes, des postes avancés de nos gros centres, où il y a un orthoptiste et une secrétaire, mais où il n'y a pas le médecin. Et l'orthoptiste fait ce que vous appeliez tout à l'heure la préconsultation, transmet les données au médecin, et le médecin rentre en vidéoconférence avec le patient à la fin, une fois qu'il a analysé à distance.
Et ça, vous allez le développer de façon concrète.
Alors,
on
est en train de discuter avec la Sécurité sociale pour que ce modèle puisse rentrer dans les fourches codines de
ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, je crois.
Si, à peu près.
Mais je vous avais pas encore l'acceptation totale.
On discute parce que
vous espérez conclure
c'est un petit
quand,
peu compliqué assez rapidement, et on compte expérimenter probablement dans les Hauts-de-France le premier cas de centre délocalisé
Donc à horizon horizon la rentrée.
Oui, horizon la rentrée, en tout cas deuxième semestre 2019.
Parce que ce qui est capital, grâce à vous et grâce à d'autres dans votre secteur, c'est surtout de limiter ce qu'on appelle le renoncement aux soins, puisque quand on met un temps fou à avoir un rendez-vous, je crois qu'il y a des régions où c'est encore très compliqué. Je disais que par exemple en Bretagne ou en Normandie, on dépasse encore les 120 jours pour avoir un rendez-vous. Ben on se dit, on verra ça plus tard, on abandonne.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut éviter le renoncement aux soins et donc il faut régler notre problème de délai. En même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Se pose par exemple la question de que peut faire un opticien, parce que c'est vrai qu'il y a un réseau d'optique dans beaucoup de villes. Alors, l'opticien, d'abord, il peut renouveler une ordonnance valide de moins de 3 à 5 ans. Et ça, s'il le fait, ça va décharger le médecin, y compris dans les territoires défavorisés. Par contre, la raison pour laquelle il faut que tous les 3 à 5 ans, il y a un passage par l'ophtalmologiste, c'est le bilan, justement, diagnostic de maladies comme le glaucome.
Les opticiens pourraient être, comme ce que vous disiez tout à l'heure, des espèces de points avancés qui permettent après d'envoyer directement à l'ophtalmo.
Mais pour faire le dépistage, il faut avoir la connaissance médicale requise. Et c'est pour ça qu'il est important que ce soit toujours le médecin qui, une fois tous les 3 à 5 ans, le fasse, soit des visus, soit en télémédecine. Et que ça ne sorte pas du scope du médecin pour que ces pathologies ne soient pas découvertes trop tard.
Quand je préparais l'interview, je disais que vous vouliez arriver au zéro délai en 2022. C'est possible ça?
Ce qu'on est déjà j'essaie de faire 2019, chez nous, c'est d'avoir un rendez-vous dans la semaine. Alors, sur tous les points vision en moyenne, on a un rendez-vous
dans
la semaine.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous pensez qu'en 2022, on peut être rendez-vous ?
La semaine, c'est presque pareil, non ?
Non, zéro délai, ça veut dire que là, je regarde et j'en ai un dans l'après-midi.
Oui.
C'est possible en 2022 ?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut répondre à un problème de santé publique. En ophtalmologie, ce n'est pas l'immédiateté qui est importante, c'est le délai court. Et je pense que le délai court, c'est dans la semaine.
Et donc ça, c'est atteignable, si je comprends bien, en 2022.
Oui.
Eh ben, merci beaucoup François Pelen, cofondateur de Point Vision, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
À demain évidemment, merci à vous Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur laposte.fr/pro.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Chômage, le plan choc du gouvernement, titre les Échos. Chômage, le grand remue-ménage pour l'opinion, qui rappelle que la réforme de l'assurance chômage présentée aujourd'hui vise à réduire jusqu'à 250 000 le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés et à atteindre 3,4 milliards d'euros d'économies sur la période 2019-2021. Il ne s'en était jamais caché en arrivant à l'Élysée. Emmanuel Macron avait pour ambition de transformer en profondeur le marché du travail et de s'attaquer aux rigidités de l'assurance chômage. La crise des gilets jaunes ne l'aura pas fait scier, écrit Fanny Guinochet. Bernard Stéphan, dans le journal La Montagne, revient lui aussi sur cette réforme. La première responsabilité incombe aux partenaires sociaux, écrit-il. Ils ont été à peu près incapables de redresser les comptes et ils n'ont pu se mettre d'accord sur ce dossier qui relève normalement du paritarisme, obligeant donc le gouvernement à prendre la main. L'exécutif vient de frapper fort, le gouvernement qui prend le risque de l'impopularité. Corruption dans le sport, Doha mouillé, titre pour sa part Libération, qui parle de la Coupe du Monde 2022 avec le placement en garde à vue de Michel Platini, on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, mais aussi des Mondiaux d'athlétisme 2019, nos révélations, titre Libé sur l'attribution de la compétition. Nasser El Khelaifi, l'homme fort du sport qatari, est cerné par les affaires. Et puis un pétrolier en feu, à la une du journal La Croix, qui titre Iran-États-Unis le risque de l'engrenage. Après deux assauts perpétrés contre des navires pétroliers dans le Golfe, le Pentagone s'apprête à renforcer son contingent militaire au Moyen-Orient. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters, bien sûr, pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous.
Merci, à tout à l'heure.